11h30, Anne Romanoff sur Europe 1.
Bonjour à toutes et à tous, ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce vendredi 28 décembre. On vous accompagne tous les jours de 11h à 12h30 pour un best-of, même pendant les vacances. Elle est déjà en plein préparatif de sa grosse fiesta du jour de l'an, une soirée Netflix en pyjama sous un plaid.
Mais oui,
la casanière Christine Béroux.
Bonjour à tous.
Cette année, il a décidé de passer un réveillon hors du commun pour découvrir de nouvelles sensations où en fait c'est lui qui conduit, le sobre mais pétillant Sofiane Etaille.
Salut tout le monde.
Il remercie encore sa mère pour ce superbe sombrero mexicain qu'il a reçu pour Noël. Il hésite encore entre tout plaquer pour partir vivre à Mexico ou lui faire manger le chapeau. Elsenor, Jérémy Lorca.
Bonjour à tous.
Il est le petit Jésus de cette émission, non pas pour son aura, mais parce qu'il aime se balader à moitié nu en racontant n'importe quoi, l'illuminé Ben H.
Bonjour à tous. Et celle qui angoisse déjà de devoir tenir ses bonnes résolutions en 2019, c'est pour cela qu'en attendant, elle se nourrit exclusivement de Ferrero Rocher, Anne Romanoff.
Au sommaire de cette émission Best of, nous réécouterons les meilleurs moments avec trois de nos invités, Laetitia Milo, l'écrivain Johan Sfar et Stéphane Plaza.
11h30, Anne Romanoff, ça fait du bien sur Europe 1.
Alors le cinéma fête aujourd'hui ses 123 ans, c'est le 28 décembre 1895 qu'avait eu la première séance publique payante au Grand Café à Paris grâce à l'invention des Frères Lumière. Est-ce que vous aimez le cinéma? Est-ce qu'il y a un film qui vous a particulièrement marqué cette année, Sofiane?
Alors moi le film qui m'a vraiment marqué cette année, c'est le film sur les promesses de Macron face aux Gilets jaunes, ça s'appelait La vérité si je mens.
Christine ?
Ah, moi, je n'ai vu aucun film en entier depuis que je suis maman, mais c'est pas grave parce que ma fille me fait vivre un film d'amour, voilà. Et puis avec elle, je suis un personnage de film, de zombie.
Voilà. Alors, dans ces émissions best-of, on réécoute des chroniques qui vous ont particulièrement marqué. Et j'avais fait, je crois, en novembre, une chronique sur le pouvoir d'achat à propos du prix du carburant. Chronique qui a été vue pour l'instant 3,1 millions de fois
bravo,
sur Facebook.
Bravo. Félicitations.
On écoute cette chronique. Notre président, qui n'en rate pas une, a déclaré à propos de la hausse du diesel « J'assume, mais beaucoup d'automobilistes n'assument pas de se sentir assommés. » Ah bah je comprends pas, moi pendant des années on nous a expliqué que le diesel c'était bon pour la planète, que ça serait toujours moins cher que l'essence, puis maintenant c'est le contraire. Mais c'est parce que ça, le diesel ça émet des particules fines, très mauvaises pour la santé. Bah pourquoi qu'ils nous l'ont pas dit avant ? Hein ? Le diesel c'est tellement cher que bientôt on va hésiter entre je prends la voiture ou j'élève mes enfants. C'est vrai qu'entre le prix du diesel, les contrôles techniques, les parkings, les radars sur la route, les futurs péages urbains, deux trajets en voiture, bientôt ça va coûter plus cher que les études supérieures de tes gosses. Non, en fait, le diesel, en fait, c'est comme un problème de CM2. Compte tenu de l'augmentation du diesel de 24% en 6 mois, compte tenu de la hausse de la CSG et que la taxe d'habitation n'a pas été supprimée partout, calculez dans combien de temps les Français auront l'impression de s'être fait niquer.
Très vite.
Sinon, pour remédier au prix du diesel, évidemment, il y a le covoiturage. Le covoiturage, ouais. C'est plusieurs passagers avec des boulots différents qui vont dans la même direction. En fait, c'est le contraire de la politique, où ils ont tous le même boulot, mais il n'y en a pas un qui va aller dans le même sens. Sinon, tu peux faire du stop, hein, bien sûr, mais ça dépend où t'habites, parce que dans le Berry, tu peux rester une journée entière sans voir une voiture passer. Alors vous allez me dire, il y a Blablacar, mais dans le Berry, Blablacar, c'est du blabla en entendant le car. En plus, si t'habites en pleine campagne en ce moment, t'as plus de chances d'être pris pour un sanglier que par une voiture. L'autostop en période de chasse, c'est devenu un sport extrême. Alors, il paraît que l'augmentation du prix du diesel, c'est pour lutter contre le réchauffement climatique et inciter les consommateurs à rouler électrique. Le problème, c'est qu'il n'y a aucun endroit pour recharger les voitures électriques. Et en plus, il paraît que construire un moteur électrique est extrêmement polluant et qu'en plus, on est censé faire baisser la part du nucléaire à l'horizon 2030. Donc en fait, si on doit prendre un nouveau crédit pour acheter une bagnole qui, dans 10 ans, ne marchera qu'avec des piles, ça va pas le faire. D'ailleurs, vu le prix de la voiture électrique, la seule voiture électrique que les automobilistes ont les moyens d'utiliser en ce moment, c'est l'auto-tamponneuse. Non, moi je dis que du coup, on n'est pas prêt à arrêter le diesel, on n'est pas prêt pour l'électrique, on n'est pas prêt à payer plus pour rouler moins, et surtout, le Français, il n'est pas prêt d'arrêter de râler.
C'est clair.
On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission Best Of avec Christine Béroux, Sofiane Etaille, Jérémy Lorca, Ben H. Et deux de nos auditeurs qui tenteront de gagner une PlayStation 4 en jouant à notre jeu Devinez qui je suis.
Yeah.
Anne Romanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 pour cette émission Best Of du 28 décembre. Christine Bérou, vous avez offert des cadeaux à votre fille de 8 mois pour Noël.
Ah oui, oh là là, mais je sais pas si c'est une très bonne idée, mais comme elle adore taper sur des trucs, je lui ai offert un xylophone. Ouais. Bah pour l'instant, ça me plaît parce que tout ce qu'elle fait artistiquement, je trouve que c'est merveilleux.
Évidemment.
Mais là, je sens que ma patience commence à avoir ses petites limites.
Ça accompagne ses pleurs.
Et puis je me dis que ce xylophone, voilà, c'était peut-être pas la meilleure idée.
Est-ce que vous lui avez offert un xylophone ou...
Non, j'ai offert un truc pour mettre les carrés dans les carrés et les rondes pour qu'elle soit logique, contrairement à sa mère. Ouais. Voilà, je vais faire une petite poupée en chiffon. Je vais faire des livres musicaux. Quand on ouvre, ça fait de la musique. Voilà, non, je crois que je l'ai beaucoup trop gâté.
Et vous, Christine Leroux, vous avez reçu quoi à Noël?
Vous voulez vraiment savoir la vérité? Ouais. Alors, moi, j'ai un tapis de yoga. Et un nouveau pantalon de yoga à paillettes.
En elle fait, est ça chelou.
Fait, ça fait des... que quand tu mets... C'est un pantalon de yoga que quand tu le mets, on dirait que ça te fait une queue de sirène.
Sympa.
C'était ce que je voulais, j'avais demandé ça.
Quoi? Et tu peux pas te déplacer du coup?
Bah non, mais c'est... il y a deux jambes. Mais
et toi,
c'est...
t'as réussi à avoir un mec? C'est très bizarre.
Mais garde-le précieusement.
Oui, faites-moi confiance.
Et tu sais que puisqu'on parle de cadeaux, j'ai quelque chose pour toi, Anne.
C'est vrai?
Bah oui, parce qu'on avait dit que tu sais, on avait tiré au sort.
Oui.
Et donc tu devais m'offrir un cadeau et moi je devais t'offrir un cadeau. Et c'était une nuisette, on l'avait dit à l'antenne. Et donc j'ai fait 8 magasins. Et j'ai trouvé quelque chose pour toi. Mais alors je dois juste préciser avant que c'était très particulier. C'est une première fois pour moi d'acheter une nuisette. Donc toutes les vendeuses m'ont dit c'est pour votre petite amie. J'ai dit bah ouais, c'est pour ma meuf, vas-y. Et donc la taille c'était hyper gênant parce que je me suis dit waouh, si je prends trop petit qu'elle rentre pas dedans, elle va être hyper vexée, elle va dire mais je suis grosse. Si je prends trop grand, elle va dire mais tu me prends pour une grosse. Je me suis dit qu'est-ce que je vais faire. Et en plus les tailles sont très bizarres. Elle me dit elle met SM. Je dis sadomaso, pas du tout. Donc voilà ce petit cadeau pour toi.
Là,
Anne.
J'adore.
Anne ouvre son paquet.
J'adore les cadeaux.
C'est vrai.
Ah, oui. Une musique
il y a un ticket cadeau, tu peux l'échanger. Sois à l'aise.
Waouh, très jolie. Elle, très bien.
La taille est bonne, hein, tu sais.
Ah, super.
Oh, c'est magnifique, merci.
Ah, bah très bien, bah voilà. Joyeux Noël.
Bah, essayez-la, Anne. voit, c'est mieux porté, ce genre de choses.
Oui, on verra ça tout à l'heure. Hein. Bon, merci.
Je t'en prie, avec plaisir.
Je suis trop contente. Alors, c'est le moment de notre jeu.
Europe 1. Anne Romano.
Le principe est simple, deux auditeurs en compétition, chacun choisit un chroniqueur qui aura 40 secondes pour faire deviner un maximum de personnalités que nous avons reçues dans l'émission depuis la rentrée de septembre. Grâce à Europe 1 aujourd'hui, tenter de gagner une PlayStation 4. On joue d'abord avec Mathieu. Bonjour Mathieu.
Bonjour.
Bonjour Mathieu. Bonjour Mathieu. Mathieu, vous êtes comédien à Issy-les-Moulineaux?
C'est ça.
Vous avez du travail comme comédien?
Eh bien non, comme...
comme tous les comédiens.
Vous êtes comédien, donc c'est bien.
Voilà,
vous c'est aimeriez ça, être comédien, mais c'est difficile. Vous faites des petits boulots pour vous en sortir? Comment vous vivez?
Caissier.
Où ça?
À la FNAC, à Montparnasse.
Bon, bah c'est bien, c'est
quand
déjà...
On peut venir à vous, déjà.
Bah oui.
Plus. Est-ce que vous savez si mon livre se vend?
Je sais pas.
D'accord.
Moi j'avais sorti un bouquin il y a 3 ans et je faisais toutes les FNAC de Paris, vraie histoire. Et en fait je prenais le livre et j'enlevais, tu sais quand c'est marqué en tête de gondole best-seller, et je mettais mon livre à la place.
Ah oui.
De toutes les FNAC. Et ça n'a pas marché.
Mathieu, vous jouez avec qui?
Rémi.
Avec Jérémy.
Ah.
Donc ce sont des personnalités que nous avons reçues dans l'émission depuis le mois de septembre. Attention, top chrono.
Oh là là, écoutez, oui, c'est le fantasme de Ben H, elle était une ancienne actrice porno.
Je passe.
Oh, ok, d'accord. Elle chante je, toute seule, ma meilleure amie.
Laurie?
Oui. Bas les masques, elle animait Bas les masques.
Je passe.
Ok, il y avait Dieudonné, il formait un duo avec, il y avait...
Elie Semoun.
Ouais, exactement. Il est porte-parole du gouvernement.
Ah, je
passe, j'ai oublié. Ok, d'accord. C'est un hypnotiseur, on l'a reçu dans l'émission. Il est très connu. Il fait
beaucoup.
Ouais, exactement. Ensuite, oh là là, elle est assez âgée, c'est une chanteuse. Shabadabada.
Oh là là,
c'est
là,
dur,
là. Hein. Jérémy, vous n'étiez pas concentré.
Et vous n'étiez pas au taquet.
Oui, mais c'est surtout. Jérémy, je vous pardonne parce que vous va faire une nuisette magnifique, mais. mais vous n'étiez pas très concentré, c'est pas gentil pour Mathieu.
Mais
quand
non,
même.
Mathieu, comme on me choisit plus depuis quelques temps, je m'attendais pas à
ni
être
pour
choisi.
Clara, ni pour Clara, qui a une carrière qui mérite bien plus que ce que tu as dit.
Donc, alors, du coup, comme bonne réponse, on avait Mesmer, Elie Semoun. Du coup, j'ai
il a dit Benjamin, il a dit
Laurie. Aussi.
Il a dit Laurie, 3 bonnes réponses. Et puisque vous n'avez pas trouvé, c'est Clara Morgan,
Benjamin Griveaux,
porte-parole du gouvernement, et Mireille Dumas,
bat les masques.
Bon, 3 bonnes réponses. Je ne suis pas très optimiste pour la PlayStation. On va voir comment se débrouille Karine. Bonjour.
Bonjour, bonjour, Karine.
Karine, vous avez 45 ans, vous êtes assistante de direction dans l'Eure, à la Garenne-sur-Eure, oui. Et vous avez 4 enfants, 17 ans, 13 ans, 8 ans, 4 ans.
Oh là là.
Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que quand même, dès le premier, vous avez vu que c'était compliqué. Pourquoi vous avez recommencé 4 fois ?
C'est 4 enfants avec le même homme en plus, Karine.
C'est ça le pire.
Vous jouez avec qui, Karine ?
Avec Christine Béraud.
Ah !
Là, je pense que tous les espoirs sont permis parce qu'il faut battre 3 bonnes réponses. Je pense que c'est tout à fait jouable. Attention, donc, des personnalités qu'on a reçues depuis le mois de septembre. Top chrono.
Alors, il présente Fort Boyard.
Olivier Mine.
Très bien. Elle a été en couple avec François Hollande. Elle s'est présentée à la présidentielle.
C'est Ségolène
Royal. Tout à fait, il a fait partie du groupe Téléphone. C'est pas Jean-Louis Aubert, c'est l'autre.
Olivier, je me rappelle plus.
Ok, elle chante « Tu n'étais pas là, mais c'était si loin. »
C'est bon, on va gagner.
Ok, elle était en couple avec Johnny Hallyday. « L'amour, c'est comme une cigarette. » Voilà, tout à fait. C'est le père de... On a reçu sa fille. C'est le père de... Il a dit « C'est beau Paris, c'est beau une ville la nuit. » C'est le père de Romane.
Richard Boranger.
Ah mais attends, tu l'as aidé.
Alors, oui, mais
c'est arrivé que
de toute façon, elle est déjà 3-2.
Hein. 4 bonnes réponses.
Elle a eu 4 bonnes
réponses. Là, elle a eu 4 bonnes réponses. 4-3.
Et vous avez en égalité.
Vous avez gagné, Karine, une PlayStation 4.
Super, merci. Merci, Christine.
Bravo.
Et je voudrais m'excuser auprès de Natacha Saint-Pierre.
Ah, c'est Natacha Saint-Pierre que vous avez massacrée.
Est-ce que tu peux réimiter ?
Et tu n'étais pas là, et j'étais si loin.
Elle vient d'annoncer qu'elle a arrêté sa carrière.
Non,
elle laisse tomber après
c'était indévinable. Hein. Et il y avait aussi Louis Bertignac, par contre. Ça, c'est le nom que vous ne trouviez pas. Mais sinon, 4 bonnes réponses. Heureusement que Ben H est venu au secours.
C'est
parce qu'on a reçu sa fille, c'est le père.
Mais il y avait une idée quand même, il y avait
Y avait une
idée. J'ai dit c'est beau Paris la nuit, il fallait avoir la culture. Oui. Bon, voilà.
En tout cas, je crois que vos enfants vont se régaler avec une PlayStation 4, Karine.
C'est clair, je vous remercie tous et bon réveillon du nouvel an.
Merci à vous aussi.
Vous nous écoutez tous les jours, Karine ?
Oui, j'essaye, quand je peux, oui.
Mathieu, on est désolé ?
C'est pas grave, je reviendrai.
Mais vous reviendrez, absolument. D'ici un mois, on sera très heureux de rejouer avec vous. On vous embrasse tous les deux, passez d'excellentes fêtes de fin d'année. Et...
Mathieu, je me sens un peu coupable. Je peux lui offrir 2 places.
Oui, bien sûr.
Je vous offre 2 places à mon spectacle, comme vous êtes parisien et c'est au Théâtre du Marais. Voilà, donc venez, vous êtes le bienvenu. Laissez vos coordonnées après, parce que je suis trop gêné de vous avoir fait perdre.
Oh.
Ok.
Si vous voulez aussi jouer avec nous, laissez un message avec vos coordonnées sur le répondeur de l'émission au 39-21, 50 centimes d'euros la minute ou via le formulaire de l'émission sur le site www.europe1.fr. On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission Best Of avec Christine Mérou, Sophia Nettaille, Jérémy Lecal et Ben H.
À toutes.
Ce vendredi 28 décembre avec Ben H, Christine Bérou, Jérémy Lecal, Sophia Nettaille.
On est toujours là.
Pour cette émission Best Of, on va écouter les meilleurs moments de l'émission avec Laetitia Milo, vous savez, la comédienne, qu'on a reçue pour son livre Ma clé du bonheur qui était paru aux éditions First. On écoute. Là, votre livre, c'est Ma clé du bonheur aux éditions First. Donc, vous donnez des conseils en fait pour être heureux.
Mais écoutez, pour tout vous dire, en fait, ce livre, il n'était pas prévu. Je suis en train d'écrire un autre roman dans un autre domaine. Et c'est vrai que lorsque je suis tombée enceinte, je me suis dit, tiens, c'est génial. Enfin, j'ai obtenu mon plus grand bonheur. Et ça m'a donné envie d'écrire. Et je me suis dit, je vais mettre... Alors, je n'ai pas raconté ma grossesse dedans. Enfin, j'ai un petit chapitre sur la grossesse, mais ce n'est pas le principal sujet. Je me suis dit, je suis heureuse et j'ai envie de donner mes astuces, des conseils pour essayer de donner l'envie de positiver.
Ceux qui ne vont pas bien, parlez-leur, Laetitia Milo.
Parlez-nous.
Là, il y a de quoi faire dans l'équipe.
On est foutus.
Non, en fait,
ça va pas du tout.
j'ai abordé plusieurs domaines, donc que ce soit la vie privée.
Alors déjà la vie privée, donnez-nous des conseils.
Dans le couple ou pas ou...
Non, bah déjà pour être en couple, déjà.
Oui, on aimerait être en couple. Écoutez, je suis pas non plus.
Agence matrimoniale,
je suis pas sexologue, je suis pas psychologue non plus. J'ai essayé de donner ma clé du bonheur qui marche sur moi. Alors je sais pas.
Ben il y en a plein.
Oui, alors mais donnez-nous, donnez-nous.
C'est
très simple au quotidien. J'en sais rien. Alors dans la vie quoi, privée, du coup dans le couple.
Privé.
J'essaie de donner des petites astuces pour que
se brosser
le couple,
les dents.
Ça n'empêche, le sourire, j'en parle.
Bah oui.
Se brosser les dents, c'est très important. Ouais. Le sourire est très important. Voilà.
Ouais, moi,
quand,
je souris
quand
beaucoup.
Vous êtes ouvert au monde. Et... En fait, voilà. Par exemple, c'est vrai que je mets en avant qu'il faut plus s'ouvrir au monde, être, avoir le sourire aux lèvres, enfin, voilà, être heureux, c'est-à-dire donner l'impression d'être heureux, on attire les gens. Tandis que si on est négatif, si on est aigri, si on sourit jamais, si on parle jamais à personne, évidemment personne va venir vers nous.
Je me suis fait plaquer par mon ex qui s'appelait Laetitia. Bah, j'aurais dû vous choisir vous.
Pourtant Laetitia normalement c'est un prénom qui veut dire joie, donc
elle joie pour elle, mais joie à moi effondrée.
Donc être positif en fait, Laetitia Milon, quelles que soient les épreuves, les difficultés de la vie, ne pas se plaindre en fait.
Non. Mais regardez à côté de soi, regardez, il y a bien pire que soi. Voilà,
ouais, c'est
y a
vrai,
mieux.
Moi je suis entourée de deux. Suffit, je tourne la tête à droite et à gauche.
Non, mais mieux. C'est vrai, il y a mieux, il y a pire. Voilà, donc regardons l'avenir, essayons de se projeter.
Et puis quand on a des
contents,
parce que vous avez eu des grosses épreuves, vous avez perdu le premier homme que vous aimez de maladie très jeune. Voilà, ça a été très très dur ça.
Ça a été une grosse épreuve.
Vous l'avez accompagné jusqu'au bout.
Mais que lui a surmonté aussi malgré tout, c'est-à-dire il a gardé le sourire jusqu'à la fin. Et c'est lui qui m'a donné cette positivité. En tout cas, c'est lui qui m'a dit « Te laisse pas abattre, souris à la vie et tu verras, tu souriras ».
Vous avez passé beaucoup de temps aussi avec votre maman qui était infirmière quand vous étiez petite, dans un hôpital.
Oui.
Parce qu'il n'y avait personne pour vous garder, donc vous alliez lui tenir compagnie.
Mais j'adorais en fait. J'adorais aussi aller la voir à son travail. D'ailleurs, j'ai choisi de faire mon stage au collège dans son hôpital. Et c'est vrai que j'allais voir les personnes et je parlais avec eux. Je leur racontais ma journée à l'école ou à la danse, parce que je faisais de la danse à l'école, à l'époque. Et donc, ça, je voyais une lueur dans leurs yeux qui...
Et vous avez même dit que vous auriez pu faire du social, en fait. Vous
bah
avez
ouais.
hésité.
Ouais, ouais, ouais. J'ai beaucoup hésité. Parce et que ouais. ça me faisait chaud au cœur que...
Parce que vous avez une générosité en vous naturelle, Laetitia Milon, en fait.
Bah
ouais.
Oui.
Faut l'assumer.
Naturelle, ou peut-être que c'est dû encore une fois à mes parents.
Parce que vos parents?
Mais parce qu'ils m'ont élevée dans cet objectif-là, peut-être aussi.
Il y a des moments où vous n'allez pas bien quand même, Laetitia Milon.
Il y a des moments où je ne vais pas bien, mais je dis dans le livre encore une fois. Il y a des moments, évidemment, il y a des hauts, il y a des bas. J'ai eu beaucoup de moments où ça n'allait pas bien. Mais encore une fois, il faut regarder à côté. Il y a pire.
Ah bah, regarde.
Il y a pire, donc il faut se battre. Au contraire, je veux dire, l'endométriose, comme aujourd'hui, voilà, c'est un sujet pour lequel je me bats et une maladie pour laquelle je me bats, pour toutes ces femmes qui sont dans le silence. Au début, en fait, on croit qu'on est seule. On croit que... Parce que voilà, je me suis sentie seule il y a des années et je me suis dit, bah, de toute façon, c'est ça, j'en parle, personne n'est atteint. Mais en fait, non, à partir du moment où j'ai commencé à en parler en 2013, je me suis aperçue que des millions et des millions et des millions de femmes en étaient atteintes.
Bah, moi, je suis, j'ai de l'endométriose stade 4, c'est le stade le plus élevé.
Bah, voilà.
Donc ça fait déjà 2 sur 3.
Eh ben voilà, ouais. Bah vous voyez, ouais. Comme quoi on dit 1 femme sur 10, bah regardez la preuve sur ce plateau. Donc 3 à 6 millions de femmes et le chiffre est minimisé malheureusement. Mais donc du coup voilà, ça m'a donné envie de me battre pour ces femmes parce qu'elles sont finalement dans le silence et il faut qu'on les entende. Et comme je répète sans arrêt, mais c'est une phrase que j'adore, c'est « toutes les femmes ne désirent pas forcément avoir un enfant ». Mais elle désire ne plus souffrir. Et donc, c'est pour ça qu'on se bat, pour essayer de trouver des solutions au niveau de la douleur.
Qu'est-ce que vous disent les gens dans la rue, Laetitia Milon, quand ils vous croisent ?
Souvent, je croise beaucoup de gens qui me disent merci. Merci d'en parler. Et j'ai juste envie de leur dire que c'est normal. Et je fais, je me battrai, je continuerai jusqu'au bout. Et en fait, j'ai juste envie de rassurer un petit peu aussi le public, parce que beaucoup de femmes se disent, on a l'impression de faire des petits pas de fourmi. Mais non. Non, 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 on ne fait pas des petits pas de fourmi, parce que dans l'ombre, on se bouge. Les bénévoles de l'association Endo-France, dont je suis marraine, se n'arrêtent pas. Et je vous jure qu'on est en train de faire des pas de géant en ce moment.
On se retrouve dans quelques instants pour la suite de ce best-of. Et là, c'est l'écrivain Johan Svar qui sera notre invité pour son livre « Modèle vivant ».
ne bougez pas.
Anne Roumanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce vendredi 28 décembre. Alors, fin août, ça avait été un de nos premiers invités de la saison. Nous avions reçu l'écrivain Johann Sfar, l'auteur du Chat du Rabbin. On écoute tout de suite un extrait de l'émission. Bonjour Johann Sfar.
Bonjour.
C'est un peu une consécration pour vous cette émission.
De vous voir, de vous voir, d'être avec vous ce matin, oui.
Vous êtes venu en moto parce que vous avez un...
Non, je suis venu en blouson de dessinateur. Ouais. C'est pareil qu'un blouson de motard, on peut dessiner dehors avec et tout ça. Il y a
donc,
plein de poches.
On met un blouson, ça aide à dessiner.
Oui, et puis et sur un malentendu, je peux passer pour un biker, ce qui n'est jamais inutile.
Ce qui est sexy.
D'accord, mais vous faites de la moto ou pas?
Pas du tout, j'ai seulement peur.
Vous mettez juste le blouson, quoi.
Juste le blouson.
Mais vous prenez pas de casque, parce que du coup, ça ferait plus réaliste.
Non, parce qu'à pied, ça va.
Après, ça ferait un. Enfin,
non, il n'y a pas besoin de casque de dessinateur.
Et puis, il faut qu'on le reconnaisse.
Non, ouais. J'ai déjà le melon, je ne vais pas mettre le casque en plus.
On vous reconnaît dans la rue, Johann Sfar?
Oui, mais de manière très bizarre. Par exemple, hier, il y a un mec qui me fait la BD.
C'était Jean-Philippe.
J'ai des lecteurs beaucoup plus parfois à tendre. Mais le truc dans la rue, très souvent, c'est la BD. C'est comme ça. De toute façon, le principe de faire des bandes dessinées, c'est que les gens partent du principe que vous êtes un rigolo. Ce qui est plutôt pas mal. Moi, j'aime bien être catégorisé.
On vous demande des selfies ou pas?
Oui, mais des dessins surtout, ouais. Et sur toutes sortes de choses.
Ah oui, des dessins
comme
qu'on peut revendre.
Ah bah, sur des organes, souvent.
Non. Et,
bah ah si, oui, sur la main, sur le poignet, sur le visage.
Ah oui.
Et, pas sur le foie.
Et évidemment,
pas sur
souvent,
les fesses.
Souvent, on me dit, est-ce que...
Là, c'est carrément une fresque. Là, voilà.
Et, est-ce qu'on me dit, fais un dessin pour mon chat. Ça, très souvent. Mais avec le plus grand sérieux, c'est pour Kiki. Or, beaucoup moins, fais un dessin pour mon rabbin. Ça, c'est...
Et vous faites des dessins, Johann Sfar? Quand on vous demande.
Pardon ?
Vous faites des dessins quand on vous demande ?
Oui, d'abord parce que je suis gentil et ensuite parce que j'ai envie qu'on me foute la paix. j'ai compris que quand on fait ce que demandent les gens, ça va mieux.
Ça, c'est vrai.
Mais est-ce qu'on peut revendre vos dessins ?
Oui, mais alors non seulement on peut les revendre, mais on peut même en revendre des faux. Par exemple, si on va sur eBay, il y a plein de dessins à moi que je n'ai pas fait.
C'est pas vrai.
Et ça me vexe parce que je les trouve moches et je les montre et les gens me disent mais non, mais c'est pareil.
Ils sont même mieux.
Oui, parce qu'ils s'appliquent mieux. Quand on fait un faux, on s'applique.
Bah ouais, c'est pareil, si vous allez à la préfecture, il y a plein de dossiers sur moi, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. J'ai pas fait.
Alors, Johann Sfar, vous êtes un des dessinateurs les plus prolifiques de ces dernières années. Vous avez connu la gloire avec Le Chat du Rabbin, le succès avec votre film Gainsbourg, Vie héroïque. Et vous êtes aussi auteur de romans. Ça vous dérangerait pas, Johann Sfar, de laisser un peu de talent pour les autres?
Je fais des livres qui se vendent très très peu aussi. Hein, je vous ferai la liste. Et l'idée, c'est que j'y vais toujours avec la même énergie. Et parfois, je trouve le public. Et parfois, je suis dans le vide avec l'écho et tout ça. Donc, il faut travailler pour soi et se dire, il y a bien des gens qui vont avoir le même goût ou qui vont rire des mêmes bêtises que moi.
Être sincère dans sa démarche artistique.
Mais parce que les gens sont largement aussi malins que nous. Ils compte quand on essaie de leur vendre des saucisses, comme qui dirait. Mon langage militaire.
Ça veut dire que vous ne tenez pas compte du tout, vous n'anticipez pas, vous vous dites pas tiens les gens ils vont aimer ça ou ils vont pas aimer ça. Vous y allez au feeling.
Oui, ça fait plaisir d'abord.
Ça c'est Moebius qui disait ça, il disait il faut pas croire les compliments, faut pas croire les critiques. Parce que si on se met à croire aux compliments, le jour où il y a une critique vraiment méchante, on va la croire aussi, on va se jeter dans une poubelle. Si je me mets à en tenir compte, ce sera encore
plus
mauvais.
Vous avez déjà eu envie de vous jeter dans une poubelle, Johann Sfar?
Ah oui, quand je vais sur les forums BD, oui, tout de suite.
Ah oui,
tu vas sur les forums BD, on parle de toi, tu te dis mais...
C'est la jaune ou la verte?
On se retrouve dans quelques instants pour la suite de ce best-of du 28 décembre. Toujours avec l'écrivain Johann Sfar, toujours avec Christine Bérou, Ben H, Jérémy Lorca, Sofiane Etaille.
Toujours là.
À tout de suite.
Anne Roumanoff sur Europe
1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce 28 décembre. On a un public formidable qui nous suit quand même depuis le fin août qu'a démarré cette émission. Et nous avons une classe de Tourcoing. Est-ce que vous voulez venir, la classe de Tourcoing Média, la troisième? Venez au micro.
Allez.
Comment tu t'appelles?
Je m'appelle Anaïs.
Et tu as quel âge?
J'ai 14 ans.
14 ans, d'accord. Et tu es en troisième à la classe Média à Tourcoing, c'est ça?
Alors moi, je ne suis pas spécialement dans la classe média. En fait, je suis venue pour ce voyage exceptionnellement parce que je fais un club dans mon collège.
Tu fais quoi?
Renvoyé.
J'ai vu la lumière, je suis rentrée.
Tu fais quoi comme club?
YOLO. En fait, je tiens entre parenthèses.
YOLO, ça veut dire You Live Only Once, c'est ça?
Oui, non. C'est ça, mais on l'a réinventé pour notre collège, en fait, parce que notre collège s'appelle Lucie Aubrac.
Ouais.
Donc ça fait You, Leon, machin chose, Lucie
Aubrac. Tu vends bien ton projet. Hein.
C'est clair. Et c'est quoi ce club YOLO, alors?
Bah, en fait, on entretient une webzine du collège.
D'accord. Donc c'est un magazine sur le web, c'est
oui,
ça?
Oui, c'est ça.
Mm-hmm. Okay.
D'accord, et toi, comment tu t'appelles?
Je m'appelle Flora, j'ai 14 ans.
Ouais, et alors
Bah, je suis dans la classe média cette année. Je suis rédac chef du projet sur YOLO.
C'est la Anne Romanoff quoi, de l'équipe.
Ah, en fait. C'est sur, la ceinture Anne.
Je prends votre place. Hein, ah, ah,
ils ont de l'ambition.
Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grande, Flora?
En tout cas, je ne vais pas être enfermée dans un bureau. Je suis une grande pipelette, alors je pense que ce serait bien.
Paysagiste.
Ouais, je pense que ça va être ça. Ouais.
Et toi, comment tu t'appelles?
Moi, je m'appelle Alexandre. J'ai 14 ans et demi et je suis au collège Louis Aubrac à Tourcoing.
Tourcoing.
Et vous n'avez pas l'accent quand même, Tourcoing, c'est ça?
Tourcoing, ouais.
C'est ma région, vous n'avez pas du tout l'accent ch'ti, etc.
Ah, c'est quand on s'énerve qu'on a l'accent.
Ouais.
Ah,
qu'est-ce que ça donne, vas-y,
quand tu t'énerves? Est-ce que tu peux parler comme Cholo, tu peux?
Ah, ça m'arrive même, ouais.
Ah, c'est le cahier, t'es ma vire.
Et Alexandre, toi, t'as l'accent ch'ti?
Non.
Il veut pas casser le mythe, il est venu beau gosse.
Il a une tête du début du 20e siècle. Mais c'est ça,
il est venu super beau gosse, tu vois, il veut pas casser le mythe, là, il veut rester sur le.
Et toi?
On dit que je l'ai, mais je trouve pas, moi.
Bah, ouais. Bah, je trouve pas. On est très incolérés, quoi, mais ça va.
Flora, vous allez lancer le best-of de l'invité. Oula. Qui s'appelle.
Johan Farr.
À partir de maintenant, nous lançons le best-of de Johan Farr.
De... Comment? Non.
non, c'est mal articulé.
Johan Farr.
Johan
Farr.
Vas-y.
C'est par où il aimait bien?
Oui, c'est par où.
Vas-y. Nous lançons le best-of de Johan Farr.
Très bien, merci Flora. On écoute.
Un des plus célèbres dessinateurs de BD de France, quand même, Johan Farr.
Même un des quelques dessinateurs de BD de Nice. On est quelques-uns à Nice.
Vous êtes niçois?
Ah, je suis niçois.
Et c'est important pour vous d'être niçois?
Ah bah c'est un passif hein, quand même, j'y suis né, j'y ai vécu 20 ans, mon père a été adjoint de Jacques Médecin, si tu veux je suis préparé pour la vie. Maintenant quand un politique dit je vais vous dire toute la vérité, j'ouvre les oreilles, je sais qu'on va se marrer.
Votre père était un grand séducteur, Johan Farr?
Bah oui, ça saute une génération. Faut dire.
C'est bien dit. Non, vous dites ça, hein. Vous avez été marié longtemps mais maintenant vous êtes...
C'était bien aussi. Hein.
Et vos enfants sont des Don Juan, ça a sauté une génération?
Mais je sais pas, il faut leur demander, j'oserais pas leur demander.
Mais non, mais ça se voit. Hein.
Mon père disait un truc très drôle, il disait le racisme s'arrête à l'entrée des chambres d'hôtel. Donc je crois qu'il y avait quand même ce projet-là aussi. Pour lui, il se faisait aimer de la France d'une certaine façon.
En se faisant aimer des Françaises.
Bah, je crois. Hein, ouais, il était français. Il est né dans l'Algérie. Était un département français à l'époque, comme la Corse, si vous voulez. Mais
on va encore recevoir des mails, Johan Farr.
Non, je suis niçois. J'ai fait mes études avec des Corses, c'est le droit.
Bah, c'est la grande.
Johan Farr. Donc le point de départ de ce roman, Modèle vivant. Vous êtes principal protagoniste. Vous êtes le héros de votre roman. Vous êtes convoqué aux Beaux-Arts afin de participer à une rencontre entre la ministre de la culture et des élèves au sujet du harcèlement sexuel?
Oui, enfin ça c'était le début, ça a tout déclenché. La direction de l'école m'appelle.
Ça arrivait en vrai?
Ah ben bien sûr, à 7h du matin en disant « Madame la ministre veut tous nous recevoir pour régler le problème du harcèlement sexuel ». Je lui dis « Tiens, pour une fois que le gouvernement va réussir quelque chose, on y va ». Et donc, dans ce et c'était...
Et c'était
parce
Françoise
que...
Nyssen qui est toujours là d'ailleurs.
Non, non mais le problème du harcèlement sexuel est très sérieux, la manière dont l'administration le résout laisse pantois. Et alors ça s'est terminé par « On va écrire un texte contre le harcèlement », donc comme dans les écoles
c'est
maternelles.
Pas bien,
voilà. Et une élève a quand même le courage de dire « Mais Madame la ministre, quand on aura écrit ça, qu'est-ce que ça va changer ?» Et la ministre dit « Le simple fait d'en avoir parlé, ça changera beaucoup. » Et je suis sorti bizarrement insatisfait de cette réunion. Et je me suis dit « Mais qu'est-ce que j'ai à dire, moi, sur les violences faites aux femmes ?» Et j'ai ouvert le théâtre de l'intime, c'est-à-dire de mes souvenirs d'enfance, des choses auxquelles j'ai assisté, des choses que je comprends. Et j'ai essayé de transporter cette problématique judiciaire et politique vers l'intime, vers l'idée du portrait. Et j'ai essayé de m'interroger vraiment. C'est pas une autocritique de mâle blanc occidental, ça m'intéresse pas. C'est une vraie réflexion sur ce qu'on se fait et sur est-ce qu'on avance vraiment. Et est-ce que le dessin, ce serait pas une réponse quand on a envie de dévorer quelqu'un parce qu'on passe nos vies à avoir envie de se bouffer les uns les autres. Et finalement, le dessin met la sauvagerie
sur du papier.
Et vous parlez de la comédienne principale du film, une star française beaucoup plus installée que l'héroïne de ce drame se mêle de l'affaire. Vous croyez qu'elle va aider la jeune actrice à se tirer de ce mauvais pas? Non, cette affreuse vieille à qui je souhaite des mycoses vaginales avec des coquilles de mou et de la sauce à l'ail dedans jusqu'à la fin de ses jours, cette raclure de bidet donc se met à hurler pour dire à sa jeune collègue que ce n'est pas pro, que c'est inadmissible, pour qui elle se prend là-dessus, parce qu'il faut toujours une cerise sur les gâteaux de merde. Le vieux réalisateur qui est tellement gros qu'il n'a pas vu sa bite depuis 10 ans va pianoter
noter sur internet le nom de la comédienne et il découvre qu'elle a déjà accepté des scènes de nu dans des films précédents.
J'essaye de raconter comment parfois une équipe se comporte mal et comment parfois une actrice très connue peut maltraiter une actrice pas connue juste parce que ça l'agace.
Mais vous êtes violent quand même.
Non, c'est la scène qui était violente. Ouais, je la raconte. Moi, je fais de mal à personne. Je raconte et j'ai tellement tout changé. Je me suis arrangé pour qu'on puisse jamais reconnaître personne. On a changé les noms, on a changé les situations. J'ai retiré 40 pages sur le monde du cinéma parce qu'on s'est dit là, on peut reconnaître. Il y a des choses où c'est intéressant de raconter comment finalement c'est encore les forts contre les faibles. C'est pas, on va pas dédouaner sous prétexte que vous êtes de sexe féminin, dire que vous êtes pas capable de maltraiter quelqu'un sur un plateau. Malheureusement, tout le monde est capable de sauvagerie.
Alors, Johannes Farr, le grand public a fait votre connaissance grâce à ce fameux chat du rabbin, hein, le chat qui vous a été inspiré par un de vos 4 chats. Heureusement que vous n'avez pas adopté une tortue ou un hamster, ça aurait pas rendu pareil.
Ah, ça aurait été différent, ça aurait fait Boulet-Ville. Mais il y a une théorie chez les éditeurs BD qui dit que les livres avec des chats se vendent davantage que les livres avec des chiens.
Ouais.
J'ignore si c'est vrai, mais les éditeurs me répètent ça tout le temps.
Ce chat, c'est aussi un prétexte pour vous interroger sur la religion, sur son enseignement, sur le droit ou non de représenter des humains, parce que vous avez fait des études de philosophie, Johannes Farr.
Bah, c'est surtout l'absurdité d'une tradition qu'on adore et à laquelle parfois on a du mal à croire. Et parfois, quand on vous dit « c'est ta religion », ça n'a pas de sens. C'est la tradition dans laquelle tu as grandi, mais on peut les accumuler. Moi, j'ai aucun problème à me dire que je peux être juif et musulman et chrétien et laïque, puisque j'accumule tout ce que j'ai vu. Mais l'appartenance, ça m'ennuie beaucoup. C'est pourquoi mon chat, c'est un chat qui a grandi dans une famille juive, mais il n'y a jamais marqué que le chat du rabbin est juif.
Il n'est pas circoncis ?
C'est la question qu'on se pose.
Et même s'il est circoncis, il n'est pas forcément juif. Hein.
Non, il a peut-être eu un phimosis.
Alors, ces questions, évidemment, prennent encore plus de sens depuis le massacre des dessinateurs de Charlie Hebdo. Ça vous a marqué, j'imagine ?
Ça m'a d'autant plus marqué qu'on se demande si les tueurs ne sont pas en situation de succès total, puisque les dessinateurs n'ont jamais eu autant d'angoisse que depuis les massacres de Charlie Hebdo, parce que tout le monde est offensé par tout, dorénavant. Or, après Charlie, on se serait dit, bon, on va peut-être se débraguetter et autoriser le fait que tout le monde a le droit de dessiner les conneries qu'il veut, c'est juste un dessin. Il s'est passé l'inverse. Il se passe qu'aujourd'hui, on est dans la génération des offensés et tout le monde est toujours vexé par quoi que ce soit. Et dessiner, aujourd'hui, c'est devenu compliqué parce que les censeurs ont gagné et ils ont gagné sur toute la ligne.
Et ça s'est élargi à l'humour.
Oui, c'est horrible d'être obligé de sortir sa carte d'orthodoxie politique avant de sortir une bêtise, parce que le principe de la bêtise, c'est qu'on la sort d'abord et on y réfléchit après.
Ah oh bah oui, ça ici.
On se retrouve dans quelques instants pour la suite de cette émission Best of, toujours avec notre invité Johannes Farr. Ne bougez pas.
Sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce vendredi 28 décembre pour une émission best-of. On a quelques nouveaux chroniqueurs parmi nous
qui sont très bien.
Qui ont 14 ans et demi, ils viennent de Tourcoing, ils se défendent très bien, ma foi.
Mmh.
Anaïs ?
Oui, moi je me défends bien, je trouve.
Alexandre, tu vas lancer la suite du best-of de Johannes Farr ?
Oh.
Si Flora l'a fait, c'est que tu peux faire.
Tu parles dans le micro et tu dis vous allez écouter la suite. Vous allez écouter la suite du best-of de Johannes Farr. Vas-y, Alexandre.
Vous allez écouter la suite du best-of de Johannes Farr.
Sur l'ORTF.
Bon, on va le faire par Anaïs. Vas-y, Anaïs.
Vous allez écouter la suite du best-of de Johannes Farr.
Bravo, Anaïs. Léa Longo a des questions à vous poser, Johannes Farr.
Bonjour. Oui, bonjour, Johannes Farr. Alors, grâce à vous, une personne m'envie. Et c'est bien la première fois que ça m'arrive. J'ai une amie d'enfance qui est fan, mais absolument fan de vous, Johannes Farr. Dès que j'ai su qu'on vous recevait, bah, en bonne copine, je l'ai appelée. Et là, au secours, elle m'a harcelée de questions. Limite, j'aurais préféré être un interrogatoire de police. Donc, toujours en bonne copine. Et ben, après lui avoir mis 2 gifles et lui avoir jeté un verre d'eau à la figure pour la calmer, je lui ai dit, OK, vas-y, Julie, pose-moi toutes les questions que tu aimerais poser à Johannes Farr. Et plutôt que de lui faire, bah, l'interview de la femme malicieuse que je suis, je lui ferai l'interview de la fan mystérieuse que tu es. Mmh. Et voilà donc ce que Julie m'a dit. Ah bah alors déjà, je lui demanderai s'il veut bien coucher avec moi. Voilà. Mais elle dit, mais depuis qu'il s'affiche avec sa meuf qui est trop canon, je crois qu'il dira non.
Voilà.
Elle dit que...
Et puis la légende selon laquelle les dessinateurs seraient des bons coups est totalement exagérée. Hein.
Bah oui. Ah bon, il y a une légende.
Un dessinateur, ça galère. Hein.
Alors pour les danseurs, je savais, mais les dessinateurs,
moi je dessine très mal.
C'est quoi, c'est le coup de crayon qui fait cette légende?
Non, mais moi je pense que les vrais bons coups, c'est les gens pas angoissés du tout.
Ah, donc, vous êtes un très calme.
Dire des dessinateurs, hein, vraiment.
Ah, moi je suis quelqu'un de très calme, tranquille.
Elle m'a dit, mais demande-lui pourquoi il a changé de style. Maintenant, il met plein de blagues et tout, alors qu'avant c'était pas le cas.
Parce que je fais ma petite crise d'adolescence là.
Ah ouais, c'est
j'aime
ça.
Bien.
T'as 15 ans, hein. Ouais, t'es bien.
Elle m'a dit, tu crois que c'est pour sa copine qu'il a fait ça, de changer de style, parce qu'elle est plus jeune?
Non, j'avais avant, c'est très gentil. J'avais ça avant, j'avais ça avant.
Alors, elle dit qu'elle se demande aussi lequel vous voudriez faire revivre un jour en dessin ou en littérature, parce que vous laissez toujours vos fins en suspens. Et elle me demande si c'est pareil avec vos histoires d'amour.
Je sais, trop personnel comme question. Je l'ai fait. Je me dis toujours qu'ils vont revenir. Quand je mets pas fin, c'est que pour moi, ils vont revenir. Après, je sais pas.
Alors,
c'est pareil pour les filles, non?
Non. Non, là je dessine beaucoup Petit Vampire, je fais aussi la suite d'Aspirine qui est une adolescente vampire, et comme d'habitude je rêve d'en faire un film, mais comme d'habitude ça se fera pas parce que mes films je galère toujours à les monter. C'est dommage parce que celui-là j'aimerais bien qu'il se fasse.
Oh, vous voulez faire un vrai film ou une...
Avec Aspirine, oui, avec une vampire énervée dans Paris qui tue tout le monde.
Génial.
Ça existe, hein, c'est à l'Amérique.
Elle m'a dit, demande-lui ce qui le révolte aujourd'hui et ce qui l'excite le plus.
Les problèmes de liberté. Les libertés individuelles sont reléguées très loin par à peu près tous les partis politiques en ce moment. C'est ça quand je parlais de Charlie Hebdo. C'est qu'aujourd'hui, la personne offensée a plus de pouvoir que celle qui a voulu sortir ce qu'elle voulait. Moi, je suis pour une liberté d'expression quasi totale et je me sens un peu seul. Et
elle m'a dit aussi, est-ce qu'il continue à aller parler dans les écoles parce qu'il est hyper investi sur le terrain tolérance et la lutte antisémitisme ?
Non, pas du tout. Pendant 15 ans, je suis allé 2 semaines par an dans des diverses ZEP de France et maintenant, je suis au Beaux-Arts de Paris, donc je fais plus ça. Et j'ai vu monter toutes sortes d'horreurs et de fermetures. Je pense que les religions doivent faire un effort si on veut qu'on les tolère dans notre pays. Les 3 grandes religions qui se crispent toutes. Et c'est vrai que le prochain chat du rabbin parle des conversions d'une religion à l'autre. Quand t'aimes une personne, tu lui demandes de changer de religion. Mais pourquoi ? Si t'aimes une personne, tu la gardes comme elle est. Mm-hmm. Et je crois que les religieux font semblant de faire des efforts. Et ils ont le vivre ensemble à la bouche, mais ils l'ont pas beaucoup dans les actes.
C'est vrai que c'est pas évident. Moi, j'ai un pote qui était très OM, il s'est converti au PSG.
Ça s'est mal passé.
Bon, et pour lui faire plaisir, après avoir entendu et répondu à ses questions, à votre avis, est-ce que c'est une femme qui aurait pu vous plaire, cette fan mystérieuse, Joanne Sfar?
Faut se méfier, les gens qui me font trop de compliments me rendent encore plus con que nature, donc il faut faire attention.
Ah ouais?
Ouais, moi, il faut me mettre des petits taquets des fois. Hein. J'ai déjà des gros défauts, mais si on me fait des compliments, je tout chousse dedans. Là.
C'est un petit peu grassouillet quand même.
Ouais, ça aussi, tu le lis dans le livre. Hein, tu lis dans le livre, hein.
C'est quoi vos gros défauts, Joanne Sfar, alors?
Je pense qu'il y a un niveau d'égoïsme qui dépasse tout. Qui consiste à dire je dessine. Alors ça a l'air très mignon au début, mais après c'est assez pénible parce que je fais vraiment rien d'autre. Mais ça suffit comme défaut, ça. Ça suffit pour compliquer une vie.
Bien manger, je dessine.
Voilà, c'est ça.
Oui, sur les nappes des restaurants, vous dessinez tout le temps.
C'est ça, je dessine.
C'est bon ce que je te fais, je dessine.
Bah oui, après, je suis très peu psychologue et les gens croient que je me fous de leur gueule quand je comprends pas. Voilà. Et
très peu psychologue, ça veut dire?
C'est-à-dire quand on me dit des choses évidentes, je les comprends pas. Ça peut être dans la vie familiale, dans la vie de couple, dans la vie professionnelle.
Quel genre de phrase vous comprenez pas?
Je sais pas, mais je me retrouve très souvent dans des conflits que j'ai
à
pas
table.
Voulu. Ah si, j'ai un autre énorme défaut, c'est les mails qui foutent la merde. Quand il y a un petit conflit qui se réglerait à 2 secondes en téléphone, moi, je fais un mail et là on est parti pour 6 mois de dispute. Soit professionnel, parce que je fais toujours le mail qui énerve tout le monde et qu'il fallait pas écrire.
Ah, vous êtes un peu impulsif alors.
Oui.
Il ne faut jamais écrire un mail quand on est énervé.
Bah dans mon cas, il faudrait juste jamais en écrire du tout.
Et l'ironie, ça passe très mal.
Non. Les vannes, surtout quand c'est un mail collectif. Ouais. Je te remercie d'avoir loupé ça.
Il y a des fans qui vous envoient des dessins ou des choses comme ça?
Oui, ça me touche beaucoup et je réponds jamais, ce qui est monstrueux parce
Pourquoi
que ça m'émeut trop. Et je sais que ma camarade Amélie Nothomb répond à tout le monde, ce qui est une autre manière d'affronter cette émotion-là. Moi, je réponds jamais parce que sinon, c'est trop. Je préfère mettre les choses dans les fictions et je préfère. Alors, en librairie,
on peut pas non plus entretenir une correspondance avec tous ces fans.
On peut pas.
Moi, je pourrais. Hein.
C'est peinard, toi. Hein.
Ouais, ils sont deux.
On se retrouve dans quelques instants pour la suite de cette émission Best of. Et là, nous allons écouter les meilleurs moments de l'émission avec Stéphane Plaza, qui a été notre invité au mois d'octobre.
Anne Romanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 pour cette émission Best of avec Ben H, Christine
On
Bérou, Jérémy Lorca, oui, yes. Sofiane Etaï.
Toujours là.
Et la concurrence.
Et la concurrence, ouais. C'est jeunes qui ont 14 ans, qui ont les dents, qui rayent le parquet, qui veulent prendre notre place. Flora, tu veux prendre ma place?
Enfin, les dents qui rayent avec des bagues.
J'avais bien, mais je pense pas avoir le talent pour.
Oh, 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 c'est déjà pas mal. Tu as déjà fait la première chose pour réussir dans le showbiz, tu sais flatter.
Oui, tu marques des points.
Faut bien.
Alors, vous avez tous des bagues, hein. Si, toi tu as des bagues, Alexandre. Non. Tu veux pas ouvrir la bouche? Ouvre ta bouche. Ah non, tu n'as pas de bagues. C'est que Flora.
Eh ouais, il y a que moi.
Ouais.
Tu vas être très belle, tu vas avoir des très jolies dents.
Car en
Maintenant, je suis laide.
Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, mais
ça fait toujours plaisir.
Est-ce que t'es dispo pour l'émission de demain?
Excuse-moi, Flora.
C'est pas son truc.
Ouais, j'ai jamais su parler aux femmes. Je suis désolée, Flora.
On écoute tout de suite un extrait de l'émission avec
Stéphane Plaza.
Eh oui. Bonjour, Stéphane Plaza.
Quel accueil.
C'est la gloire.
C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas
ça
mal.
Ça ne s'arrête plus.
Il y a quelques mois, on vous avait reçu pour la pièce Le Fusil, puis vous continuez à jouer en tournée dans toute la France. Mais ce midi, on a le plaisir de passer cette demi-heure en votre compagnie à l'occasion de la sortie du film J'ai perdu Albert, un film de Didier Von Kovelert, adapté du roman de celui-ci. Là, c'est la consécration, le cinéma, Stéphane Plaza.
En tout cas, c'est génial parce que c'est un très beau film. Et en plus, c'est dans un rôle où on ne m'attend pas forcément parce que ce n'est pas moi qui ai l'effet comique, même si le film est drôle et touchant.
C'est un serveur de bar.
Oui, apiculteur.
Apiculteur dépressif.
Dépressif, un peu sombre, c'est ça. Mais heureusement, il y a des gens gays dans le film, comme Josiane Balasco, Julie Ferrier. En fait, c'est une histoire d'amour à trois personnes, deux êtres qui sont complètement... différent et l'esprit d'Albert Einstein qui va passer de tête en tête.
En plus, il faut savoir quand même que vous avez pris des cours de théâtre pendant des années. C'est pas une lubie, c'est pas vous n'êtes pas un animateur télé qui tout d'un coup se dit je vais être comédien. En fait, votre envie d'être comédien était là dès le départ.
Oui, j'ai fait 7 ans de conservatoire en banlieue, puis après j'ai eu quand même 2 pièces de théâtre qui ont bien marché et puis j'ai eu 3 téléfilms. Donc évidemment, Didier Von Kovelert est venu me chercher, mais pas par hasard. Hein, et c'est pas moi qui ai dit tiens, en tant qu'animateur, qu'est-ce que je vais faire pour.
Mais par contre, quand on vous demande, vous dites que ce qui est le plus essentiel à votre vie, c'est l'immobilier. Quand même.
Oui, mais je pense que je suis né pour ça, etc. Puis on sait tous que animateur télé, le cinéma, etc., même si vous avez des dons, vous êtes prédestiné, ça peut être une lubie pour les personnes qui vont vous employer et ça peut s'arrêter du jour au lendemain.
Vous avez peur de ça, que ça s'arrête, Stéphane Plaza ?
J'ai pas peur. Non, j'ai eu la chance d'être, en tout cas déjà d'être reconnu dans l'immobilier. À la télé, ça se passe plutôt pas mal. Apparemment, les échos de ce premier film sont très bons, donc j'aurais fait ce que j'avais à faire. Et après, faut être fier de ce qu'on fait et pas avoir de regrets dans la vie.
C'est joli.
Philosophe.
On peut applaudir. Alors, c'est grâce à M6 que vous avez été connu, Stéphane Plaza, d'un très large public, avec votre programme Recherche Appartement, qui a été décliné en Recherche Maison. D'ailleurs, pour les premiers de cordée, vous pourriez faire Recherche un château du 18e, Recherche Villa Saint-Tropez, Chalet à Mégève, et pour les Gaulois réfractaires, vous pourriez faire Recherche Mobilhome, Recherche Tente Quechua.
Alors, je préférais la deuxième, les tentes et le Mobilhome. Hein. C'est plus mon domaine, ouais.
Dans le film J'ai perdu Albert, adapté du roman de Didier Von Kovelert, vous interprétez Zach, un serveur dans une cafétéria, un peu dans la lune, célibataire, qui est élève des abeilles.
Ça, célibataire, non, sa femme s'est barrée quand même. Oui. Oui.
La soirée reste la même. Hein.
il regarde du porn.
vous avez une conscience écolo, Stéphane Plaza, vous-même, ou c'est un pur rôle de composition? Vous êtes tout du genre à croire que le tri sélectif, c'est une fonctionnalité sur Tinder, ou vous le faites vraiment?
J'ai ni Tinder ni Grindr, hein, comme ça on est tranquille. Puis quand on est connu, c'est pas facile d'avoir ça, sinon on est tout de suite affiché. J'essaye de faire du tri sélectif, mais comme je vais au restaurant souvent et que je ne mange pas chez moi, je sais pas faire cuire un œuf. C'est facile d'avoir 3 poubelles chez soi.
Vous savez vraiment pas faire cuire un œuf, Stéphane Plaza?
La dernière fois que j'ai essayé, je crois que j'ai foutu le feu parce que mon planning, comme je suis un peu au planning à papier, etc., je l'ai laissé sur les plaques et voilà.
Vous avez laissé sur la plaque?
Mon planning papier.
Parce que j'ai toujours des plannings papier, malgré qu'on soit très moderne et au digital, moi j'ai toujours le truc à l'ancienne.
Et vous l'avez laissé sur la plaque?
Sur la plaque, oui.
Et donc, vous avez mis la poêle dessus?
Forcément. Et puis donc j'étais sous ma douche, la fumée arrivait là et on est venu frapper à la porte. Je me dis, tiens, des voisins, hop. J'ouvre en serviette. Je me dis tiens, enfin une bonne soirée. Finalement, disons, il y a un problème. Évidemment, il y avait un problème.
Vous habitez toujours au 5e sans ascenseur?
6e pour avoir un cul en béton.
Ah ouais.
ça marche ou pas?
Et ça commence à marcher.
Mais
ça commence
pour monter les cours, c'est une catastrophe.
Et ben,
il se les fait livrer.
Voilà, je me les fais livrer.
Et quand il y a des amis qui arrivent, ils sont là.
Alors ça peut être bien quand vous voulez que quelqu'un reparte pas, comme ça il reste. Quand c'est un gros lourd, une grosse lourde, là vous êtes emmerdé. Hein, parce que,
il repart plus non plus.
Attends, on va prendre son temps. Hein.
Ouais. Vous êtes connu pour être très maladroit, Stéphane Plaza, c'est vraiment vrai. Tout le monde se moque de vous à cause de ça, mais c'est réel.
Ah, c'est pas une légende. Non. Tout ce qui n'arrive pas peut m'arriver.
Vous avez dit que vous êtes deux pieds gauche.
Ah oui, et puis des mains gauches. J'ai été ce week-end à un mariage, donc on me prête une belle voiture, mais vraiment une très très belle voiture.
Quelle idée!
Donc je roule, la voiture est parfaite, je roule donc en étant décapoté, il faisait très beau, Mais malheureusement, je mets ma carte bleue et je n'ai pas de liquide dans le pare-soleil. Ouais. Et bien, figurez-vous que cette carte bleue s'est envolée sur l'autoroute. Et alors, imaginez la tête des gens quand vous arrivez avec une superbe voiture, vous n'avez plus l'argent, vous allez à un mariage et que vous taxez quelqu'un pour prendre de l'essence. Je pense que si j'étais pas connu, ou le mec, il a cru que c'était un canular, mais ils m'ont prêté de l'argent, que j'ai remboursé, hein, bien sûr, en voyant chez. Mais là, ça n'arrive pas.
Et vous arrivez tout, vous perdez les téléphones, vous les explosez. Qu'est-ce qui se passe?
Je les explose, oui.
Qu'est-ce qui se passe avec vos téléphones portables?
C'est mes mains, je pense que ça doit pas. Je dois avoir un problème.
Ils glissent.
Glisse. Alors après, c'est pratique parce qu'on vous demande plus rien. Hein. Vous allez chez les gens, vous êtes invité, vous ne débarrassez pas. Non, reste assis. Alors effectivement, j'en joue un peu. Hein. Oh là là, non, attends, non, bouge pas. Non,
Mais dans l'amour, vous faites aussi des choses comme ça qui vous arrivent?
Dans l'amour, donc avec le cœur, mais ça égaye un petit peu. Ça égaye un petit. Quand la personne est amoureuse, elle trouve ça très
mais
mignon.
Qu'est-ce qui se passe pendant les préservatifs explosent avec vous?
Oh non, j'ai pas une grosse caquette comme ça. Non. Au contraire, je peux en mettre 4, moi. Je veux dire, moi, j'habite.
Pour embourrer.
Ouais, j'habite tout l'hiver. Hein, là-dedans.
Non mais vous dites, je vais te faire un café. Et là, qu'est-ce qui se passe? La tasse tombe.
Ah bah ça explose. Non, je suis vraiment très très maladroit. Mais ça met un peu de
piment.
Ça
ne sait jamais ce qui va se passer.
Et puis au moins, ça ressemble pas aux autres. Alors on se dit, tiens, il est différent. Alors quand on l'aime, c'est bien. Ouais. Quand ça commence à gonfler, on dit, quel connard ce mec.
Et du coup, vous faites beaucoup de choses aussi pour les enfants hospitalisés. Vous en faites des tours de magie?
Oui, alors j'essaye, oui, en tout cas.
On aimerait bien voir
parce
ça.
Parce qu'ils sont en général plus doués que moi, oui, c'est magie.
Vous aimez bien la magie, je savais pas.
J'aime bien la magie, oui. En fait, je suis un enfant, hein, je suis un grand enfant. C'est ce qu'on dit, les artistes, il faut être un grand enfant pour vraiment rester dans ce milieu. En tout cas, j'essaye de donner du temps.
Parce avec que une association, temps, vous allez voir les enfants dans les hôpitaux.
Voilà.
Et vous les faites rire?
Alors déjà, je les fais rire parce que oui, quand ils me voient y arriver, je les fais rire. Et en plus, en général, ils sont plus doués que moi pour les tours de magie. Donc, ils me disent, attends, je vais t'apprendre. Alors en fait, c'est moi qui m'assois. Mais en tout cas, ça les détend, ça les change un petit peu de l'ordinaire. Et,
et moi, ce qui me frappe aussi dans vos émissions, Stéphane Plaza, c'est que parfois, il y a des femmes très revêches.
Oui.
Et vous arrivez à les émoustiller, les ouvrir et les.
Non, mais... Attention.
C'est-à-dire, je regarde pas toutes les émissions.
J'ai pas
mais
un décapsuleur.
Mais à chaque fois, on voit une femme pas commode, fermée, hein, et vous arrivez à trouver la.
En tout cas, je pense qu'avec.
Plus elles sont revêches, plus vous y arrivez à les.
Ben, en tout cas, comme quoi, il y a toujours quelque chose de bon dans ces
vous
anomales.
Vous êtes spécialiste en femmes revêches.
Oui, je suis spécialiste en connasse.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de ce best-of avec Stéphane Plaza. Ne bougez pas. D'être avec vous sur Europe 1 ce 28 décembre avec Ben H, Christine Mérou, Jérémy Lorca, oui. Sophia Détail.
Yes.
Nos jeunes amis tourcoins ont rejoint le public. On va faire venir maintenant la dame en rouge. Bonjour madame. C'est Geneviève qui vient de nous rejoindre. Bonjour Geneviève.
Bonjour Anne. Bonjour.
On peut l'applaudir. Bah oui. Geneviève vient nous voir presque tous les jours depuis le mois d'août, c'est vrai?
Presque, sauf quand il n'y a pas de place.
Ah, des fois il n'y a pas de place?
Des fois il n'y a pas de place.
Il y a beaucoup de demandes?
Pour une fois qu'on est complet.
Il y a trop de monde.
Il y a trop de monde qui veut venir assister à l'émission.
C'est bien, tant mieux pour vous.
Oui. Et alors, dans les chroniqueurs, qui vous aimez bien, Geneviève?
Mais ils sont partis. Oh.
Comment ça, ils sont partis?
Oh,
qui vous aimez bien? Bon.
Vous savez que là, c'était nos primes de Noël. Là.
Je les aime tous.
Vous les aimez tous?
Oui.
Et vous faisiez quoi comme métier, Geneviève?
Moi, j'étais papetière dans une imprimerie. Je suis restée 45 ans dans la même maison.
Oh, wow. 45 ans?
Bravo. On va rester 45 ans avec toi.
Non, pitié.
J'espère que je serai débarrassée de vous avant 45 ans. Et là, vous avez trouvé l'amour dans la papeterie?
Même pas.
Non?
Que des hommes mariés.
Vous avez eu des belles histoires d'amour?
Une.
Une? Qui a duré combien de temps?
Très belle, 25 ans.
Ah oui, c'est beau, d'accord.
C'est le grand amour. Magnifique.
Et puis alors après, pourtant vous avez des cœurs autour du cou là.
Ah bah oui. Il y a un côté qui est parti, puis l'autre il est resté.
Oh. Et en plus, les auditeurs peuvent pas
Est-ce
le voir.
Est-ce que je peux faire quelque chose?
Oh non, j'aime pas les
jeunes. Geneviève est très.
Je m'appelle pas Brigitte.
Vous n'aimez pas les jeunes, Geneviève?
Oh non, pas du tout.
Vous avez déjà essayé d'aller avec un plus jeune?
Jamais. Mais je vais quand même pas aller avec un jeune que j'ai un fils de 54 ans quand même.
Ah ouais.
Surtout si je l'oblige à m'appeler papa, ça va être compliqué.
Est-ce que votre fils est célibataire?
Mon fils?
Oui.
Ah, non.
Donc pour Anne, c'est
moi. Mais ça va. Mais moi, je suis très exigeante.
Ton équipe pense à toi.
Mais c'est pas n'importe qui.
Mais regarde ta future belle-mère, elle est adorable.
Trop exigeante.
Vous allez lancer la suite du best-of, Geneviève. C'est Stéphane Plaza.
On écoute un extrait de Stéphane Plaza.
Vous faites attention à votre ligne, Stéphane Plaza. Vous êtes assez fluet quand même.
Je me suis mis au sport.
Ah bon?
Oui. Je me suis dit, bon, bah, prends, t'as les fesses un peu molles en ce moment. Malgré le sixième étage, ça n'est pas. Donc je fais, vous savez, on vous envoie de l'électricité.
Ah, je le fais aussi, moi.
Ah, c'est génial.
Ah. Elle le fait depuis 20 ans. Vous voyez, ça marche. Hein.
Écoutez, moi, ça a l'air de marcher. Hein.
Ouais, c'est vrai.
Je me galbe.
Et puis surtout, c'est pas très long. On fait 20 minutes de sport.
Mais on fait du sport quand même. Moi, je pensais. Enfin. Moi, je pouvais pas. Je suis resté sans marcher pendant deux jours, hein, à mettre mes chaussettes. Ah oui, je sais, vous n'avez pas le bon. Ah ouais. Je vais vous emmener rue Vivienne. Allez,
vous l'avez branché sur le triphasé, vous, c'est pour ça.
Ils m'ont branché, là. Mais en tout cas, j'essaye de faire ça et je dois me mettre un peu au tennis. Avec Karine Lemarchand.
Sympa.
C'est votre grande amie, Karine Lemarchand. Oui. Vous dites qu'elle peut vous appeler à n'importe quelle heure du jour et de la nuit.
Oui, elle peut même venir sonner, à n'importe, même nue, à n'importe quel jour de la nuit. Hein. Quand Karine Lemarchand vient, tout le monde trépasse. Hein. Mais voilà, il y a une fusion. Et
vos équipes aussi. Moi, j'ai rencontré une personne qui travaille pour vous, les gens vous adorent, Stéphane Plaza.
Ça se passe bien parce qu'il paraît que je suis plutôt sympa, oui. Dans la vie, voilà, j'ai pas de revendications.
J'ai entendu personne dire c'est un vrai con, Stéphane Plaza.
Je vais vous présenter mes ex. Hein.
Avec les ex, il y a des dossiers.
Oh bah il y a toujours quand quelqu'un, il y a toujours un quand ça va plus, ça va plus.
C'est vrai. Hein.
Tout est beau puis d'un seul coup tout est gris.
C'est ça, je suis bien d'accord. Alors, dans ce film Albert de Didier Van Coverlaert, Stéphane Plaza qui sort le 12 septembre, donc il y a Albert Einstein qui vient vivre dans votre tête. Et moi, je crois à tout ça, parce que vous savez, par exemple, moi j'ai la faculté d'entendre ce qui se passe dans la tête de mes chroniqueurs. Par exemple, là, dans la tête de Jean-Philippe. Voilà, dans la tête de Didier Porte. Allez, et regardez ce qui se passe dans la tête de Ben H. Et dans la tête de Léa.
Vous étiez encore dans la mienne.
Je veux bien y aller dans la tête de Léa, moi. Ça a l'air intéressant.
Ça a l'air plus sympa que chez les autres, je suis sûr.
Ah oui.
Vous voyez, ça peut être un peu pénible d'avoir un don comme celui-ci, surtout avec cette équipe. Vous avez des dons cachés, Stéphane Plaza, à part celui de mettre les gens de bonne humeur?
C'est déjà pas mal, non, de mettre les gens de bonne humeur et de mettre une bonne ambiance. Non, je sais pas.
Quoi qu'il en soit, en tout cas, bravo pour ce film, Stéphane Plaza, et merci de votre présence parmi nous ce midi.
Merci.
Jean-Philippe Bizzini, il a suivi les conseils de Stéphane Plaza pour relooker sa maison, mais ça n'a pas marché comme prévu.
Alors, pas du tout, hein, pas du tout. Parce qu'avec ma femme, nous, on vous regarde tout le temps à la télé, on vous adore, hein, parce que c'est vrai, hein, il fait des miracles. Regardez dans ses émissions, les gens, ils ont une maison toute pourrie, qu'ils n'arrivent pas à vendre depuis des années. Et vous arrivez à relooker leur maison en deux jours seulement. Il arrive avec un bout de lino, deux vieilles palettes et un pot de peinture. Super Plaza est passé par là et la maison toute pourrie se transforme en penthouse new-yorkais en deux jours. Moi, j'ai dit à ma femme, chérie, on va faire pareil. On va acheter une maison en ruine et on va faire tout comme Stéphane Plaza. Eh ben, ça a pas marché comme vous, nous, hein. Nous, alors déjà, on voulait une cuisine ouverte sur le salon. Alors, on a fait comme vous, avec un marteau, on a abattu le mur. Et ben, on s'est retrouvé avec une cuisine ouverte sur le salon, mais pas le nôtre, sur le salon des voisins. On s'est planté de mur. Heureusement qu'ils aiment manger plus ou moins comme nous, sinon ça nous faisait faire plusieurs services, tu vois. Alors, on voulait une belle salle de bain, c'est important. Hein. Ils disent souvent, la salle de bain, très important. Moi, j'ai essayé de faire une douche à l'italienne. Et ben là, j'ai réussi. Elle était vraiment à l'italienne. J'ai pris une douche dans mon salon, c'était Venise. Après, on a voulu creuser une piscine pour les enfants, ça c'est bien. Hein. Alors avec mon beau-frère, on est parti, on a pris une pioche chacun et on a commencé à creuser. On a creusé, tout d'un coup, je sens une odeur. Alors je dis à mon beau-frère, dis donc, t'abuses un peu. Si à midi tu digères mal, si tu veux, ce soir on te fait du riz. Il me dit, non, ça n'a rien à voir, je viens de mettre un coup de pioche dans la fosse septique. Bon, ben là, les enfants, pour la baignade, va falloir qu'on rajoute du chlore. Au fond du jardin, nous, on a une route nationale qui fait beaucoup de bruit. Alors, l'agent immobilier nous a dit, hein, vous inquiétez pas, ils vont installer un mur anti-bruit. Et ben, il a pas menti. Deux jours après qu'on ait signé la maison, ils ont commencé les travaux pour construire le mur. Et puis, ils font ça bien, hein. Ah, ils s'appliquent, hein. Ça fait 2 ans, il est toujours pas fini le mur. Maintenant, les travaux, ils font plus de bruit que la route. Alors Stéphane, merci beaucoup pour les conseils.
Oula, vous allez encore aller.
On vous lâchera pas.
On se retrouve dans un instant pour la dernière partie de cette émission avec Ben H, Christine Béroux, Jérémy Lorca, Sophie Redax.
Yes, yes.
Une émission best-of et puis notre chroniqueuse du jour, Geneviève, qui a 75 ans, ne bougez pas.
Qui va remplacer Anne Romanoff.
Quoi? Mais tout le monde veut te remplacer.
C'est une manie.
Déjà
mais
en rouge, c'est parti.
Ça suffit, pourquoi tout le monde veut me remplacer? Je suis irremplaçable, ouais, mettez-vous ça dans la tête. Ne bougez pas, on revient. Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 pour la dernière partie de ce best-of avec Ben H, Christine Béroux, Geneviève, notre chroniqueuse stagiaire de 75 ans, Jérémy Lorca, Sofiane Etaille. Sofiane Etaille, vous qui êtes chauffeur de bus à Bordeaux, qu'est-ce que vous faites pour le 31 décembre?
Bah, pour le 31 décembre, il arrive que je travaille et du coup, je me tape toute la viande saoule de Bordeaux dans mon bus. Quoi.
C'est vrai?
C'est vrai.
C'est compliqué le 31 décembre de conduire des bus?
C'est un peu plus compliqué en fait. C'est un peu plus compliqué parce que les gens, bah, en même temps, on peut pas leur en vouloir parce qu'on veut pas qu'ils aillent conduire justement. Donc on préfère qu'ils montent dans nos bus, mais après, c'est nous qui les supportons quoi. Donc
c'est déjà arrivé qu'on vomisse dans votre bus, j'imagine.
Absolument.
C'est horrible parce que pour les gens ça sent pas très bon quoi.
Alors ce qu'on fait en fait, on appelle et puis s'il y a un bus disponible on nous le change, et s'il y en a pas on prie pour que le service se passe le plus vite possible.
Ah. Et t'as déjà mis de la musique et tout pour faire la fête un peu dans ton bus?
Pas besoin, les clients s'en chargent.
Il y a Geneviève qui demandait que tu es encore chauffeur.
Oui toujours. Toujours. Oui, je fais les deux.
Vous faites la navette?
C'est ça. Je passe de Bordeaux à Paris et tout. Et puis voilà, ben le métier est intéressant. Puis en même temps, ça m'aide dans mon métier d'humoriste. C'est une source intarissable quoi.
Et alors, chauffeur de bus, vous souhaitez pas le 31 au micro, Sofiane?
Quand c'est vraiment genre le décompte et tout, il peut arriver. De toute façon, on entend les gens qui le font. J'ai même pas besoin de regarder ma montre.
Et les gens viennent vous embrasser dans le bus?
Ça dépend du taux d'alcoolémie en fait. Plus il est haut, plus j'ai de chances d'obtenir un câlin. Et en général, ça me gêne dans les virages.
Là, vous allez lancer la suite du best-of, Geneviève.
C'est-à-dire?
Vous allez dire, on va écouter les meilleurs moments de l'émission avec Stéphane Plaza.
Alors, on va écouter les meilleurs moments de l'émission avec Stéphane Plaza.
Bravo!
Et Stéphane Plaza, notre invité, qui est notre invité pour le film J'ai perdu Albert, réalisé par Diévan Kovalard, qui sort le 12 septembre, mercredi prochain. Un film avec Julie Ferrier, Josiane Balasco, Bernard Lecoq, Virginie Visconti. Et c'est un film que les gens aiment beaucoup, ceux qui l'ont vu.
Oui, et puis il y a quand même Patrick Préjean, et la musique est de Michel Legrand, et il y a même Nathalie Dessay qui chante. Donc j'ai quand même. C'est quand même un rêve de commencer comme ça, déjà avec un premier rôle.
Et il paraît que vous étiez très impressionné de jouer avec ces acteurs, et vous les avez appelés sur leur téléphone pour vous présenter, en fait.
Oui. Oui, mais même si j'ai l'impression qu'on me connaît parce que l'émission elle marche bien et tout ça. En tout cas, j'ai appelé, j'ai envoyé un texto à toutes les personnes avec qui j'ai joué.
Ils vous ont dit, vous êtes qui?
Non, ils n'ont pas osé. Ils ont dit, mais qui c'est ce con? Mais
Josiane Balasco a été très gentille avec vous.
Oui, mais même sur le tournage, elle m'a pris elle m'a donné des conseils, mais vous savez, quand on donne des conseils, c'est bien de les donner, mais pas forcément devant tout le monde.
Ouais.
Elle a le respect. C'est quelqu'un qui est, en plus, qui est doué et qui a un talent immense. Mais voilà, elle est venue. Évidemment, elle a dû se douter que c'était peut-être un peu dur et que mon cœur battait quand même l'émotion. C'est pas rien de jouer avec Josiane Balasco, surtout que ça va très très vite et c'est quelqu'un de très doué. Donc voilà, elle a bien attendu le moment pour me conseiller. Mais c'est vrai que j'ai envoyé un texto à tous les acteurs et je leur ai dit. J'étais content de faire cette aventure.
Et avec Julie Ferrier, ça s'est très bien passé.
Ça s'est très très bien passé. C'est quelqu'un d'extraordinaire, qui a beaucoup de talent, qui est drôle.
Ouais, qui est très drôle. Complètement barré, mais très drôle.
Complètement barré, mais ça on peut le dire.
Mais vous êtes un peu barré aussi,
Mais
Stéphane
je
Plaza.
Suis complètement barré. C'est et là, l'avantage, c'est que je suis tombé vraiment avec des gens qui travaillaient énormément malgré le talent qu'ils avaient.
C'est déjà la fin de ce best-of. Merci à Jérémy Lorca de nous avoir accompagnés, Sofiane Etaille, Ben H, Christine Béroux. Merci à Geneviève, merci aux élèves de la classe média de 3e de Tourcoing. On vous embrasse très fort, passez un excellent week-end de fête. Tout de suite, le journal de la rédaction. On se retrouve pas demain, on se retrouve le 31 décembre. Là, on vous a concocté une émission spéciale avec un astrologue, avec Laurent Mariotte qui viendra nous donner des recettes de cuisine pour le 31 décembre. Et Nico Céaléagas qui viendra nous faire un coucou surprise. Et également le président du Resto du Cœur. Tout ça, ce sera le 31 décembre, une émission inédite. On vous retrouve lundi sur Europe 1.
À lundi.